Bonjour, aujourd'hui le modèle de tous les grands conquérants, Alexandre le Grand.
Alexandre fit connaître à l'univers le nom des Grecs. Il leur laissa 4 empires en Asie. La langue et la civilisation des Hellènes s'étendirent du Nil à Babylone et de Babylone à l'Indus. Chateaubriand.
ans d'histoire. Il fut le modèle de tous les grands conquérants de l'histoire, César, Charlemagne, Gengis Khan ou Napoléon, qui rêvaient tous d'égaler le destin incroyable de ce petit prince macédonien de 20 ans, devenu en quelques années le souverain d'un des plus grands empires du monde. Alexandre, qui en 4 ans à peine, sur le Granic, à Issos et à Gaugamel, écrasait les Perses de Darius, avant d'entraîner son armée jusqu'aux confins du monde connu, sur les rives de l'Indus, où il fit construire une des 70 villes qui ont porté son nom. À part Alexandrie en Égypte, elles ont presque toutes disparu après lui, mais cet empire éphémère dans lequel il rêvait d'unifier tous les peuples de la Terre a marqué pendant 23 siècles la mémoire des hommes. Il en reste le souvenir d'une extraordinaire épopée, commencée en 334 avant notre ère, quand le fils de Philippe de Macédoine entraînait les Grecs à la conquête du monde.
Soldats ! Vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteintes ou connues. Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé, si ce n'est le nom de votre roi.
Alexandre ! Alexandre !
Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête.
François Suard, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre sur Alexandre, chez Larousse, vous accordez presque autant de place, et même plus de place, au mythe d'Alexandre qu'à sa propre histoire. Vous dites que cet homme, plus que ses conquêtes, ce qui frappe, c'est le succès persistant, dites-vous, qu'il a gardé dans la mémoire des hommes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le personnage d'Alexandre puisse encore nous fasciner, aujourd'hui, au XXIe siècle?
J'ai envie de vous répondre par une citation de Malraux, qui parle effectivement d'Alexandre et qui dit ceci. Les hommes sont hantés par les songes, et les actions qui ont la couleur des songes sont aussi fortes que les dieux. Et Malraux, à sa manière, qui est une manière prophétique, qui est une manière de visionnaire, explique que ce qui compte finalement dans Alexandre, c'est qu'il ait su, grâce à la rapidité de sa conquête, à l'étendue de ses conquêtes, au trajet fulgurant de sa vie, puisqu'il meurt dans un temps qui est comparable à celui du Christ, et bien entendu Malraux fait le rapprochement.
33 aussi, ans,
il 33 ans, ans oui. Effectivement.
Il est roi à 20 ans, roi de Macédoine à 20 ans, il conquiert, il attaque l'Asie à 22 ans, et il en est le maître quand il y meurt à 33 ans. C'est sa jeunesse, effectivement.
C'est sa jeunesse, et il est même maître de l'Asie, en fait, bien avant ces 33 ans, puisqu'il va poursuivre, au-delà de la défaite de son adversaire, Darius, alors que, d'une certaine manière, il aurait pu se contenter de ses victoires et se proclamer, dès ce moment-là, maître de l'Asie.
Alors, il y a aussi les écrivains, même de son temps, enfin, de son temps, pas tout à fait, ce que l'on sait d'Alexandre François Suard a été écrit après sa mort, pour l'essentiel.
Pour l'essentiel, ce que nous savons comme document, en effet, date de bien longtemps, après sa mort, entre 3 et 5 siècles à peu près. Mais ces historiens, qui sont aussi à certains moments des philosophes, comme Plutarque par exemple, ces historiens utilisent des documents qui sont antérieurs et qui ne sont parvenus jusqu'à nous que grâce aux citations qu'ils en font. Donc nous avons quand même des traces de ce que pensaient les compagnons d'Alexandre.
Alors, je vous propose d'écouter justement le portrait d'Alexandre vu par les historiens de l'Antiquité, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, pour Alexandre, il est difficile de séparer l'histoire de la légende, tous ces textes grecs en font un personnage quasi mythologique, presque divin. Alors, de par ses origines d'abord, Diodore de Sicile, un de ses auteurs par exemple, présente descendant d'Héraclès en ligne paternelle et des Éacides en ligne maternelle.
Hercule des Romains, Héraclès.
Voilà, c'est-à-dire en toute simplicité apparenté à deux du dieu Héraclès et Achille. Alors, le même auteur raconte un épisode décisif de la jeunesse d'Alexandre. Un oracle en Égypte lui aurait déclaré « L'heureux succès de tes entreprises prouve que tu es né d'un dieu, à tout jamais tu seras invincible ». Le roman d'Alexandre, qui est une autre biographie légendaire, évoque son premier exploit, la conquête du célèbre Bucéphale. À l'âge de 15 ans, Alexandre passa un jour dans le lieu où le cheval était enfermé et entendit un hennissement terrible. Surpris, il interrogea le général. « Sire, lui répondit-il, c'est le cheval Bucéphale que ton père a fait enfermer parce qu'il se nourrit de chair humaine. » En entendant la voix d'Alexandre, le cheval hennit à nouveau, mais cette fois doucement et mélodieusement, comme dompté par un dieu. Alors Alexandre ouvrit la cage, enfourcha le cheval et chevaucha à travers la ville. Le roi Philippe, son père donc, s'écria « Salut Alexandre, maître du monde !» Même physiquement, Alexandre n'est pas un humain comme les autres. Sa peau, écrit Plutarque, exhalait une très agréable odeur. Sa bouche et tout son corps sentaient si bon que ses tuniques étaient imprégnées de ce parfum. Et bien sûr, Plutarque célèbre le conquérant Alexandre, notamment le propagateur de la culture grecque. Alexandre, dit Plutarque, fonda plus de 70 cités parmi les peuples sauvages et parsema l'Asie de lois grecques. Il vainquit leur mode de vie de non-civilisé, proche de celui des animaux sauvages. Et Plutarque l'affirme, le but premier d'Alexandre était celui d'un philosophe, non pas obtenir pour lui le luxe et la gloire, mais assurer à tous la paix et la concorde. Alors ça ne se passe pas toujours aussi bien que ça. Diodore de Sicile évoque aussi la cruauté d'Alexandre avec les habitants, par exemple, de Gaza. Le roi réduisit en esclavage les femmes et les enfants et fit mettre en croix tous ceux qui avaient l'âge de porter les armes. Autre envers du décor, notre demi-dieu était porté sur la boisson, semble-t-il, et sur ce que ces prudes auteurs appellent la débauche. 365 concubines remplissaient son palais, déplore Quinte Curse, autre auteur.
C'est tout ?
Eh oui, une par jour.
Une par jour.
Dans l'année. Lui aussi, il réprouve aussi sa vanité. Alexandre a cru qu'il pouvait s'égaler aux dieux, revendiquer l'honneur du ciel et s'irriter avec une violence injustifiable contre tous ceux qui refusaient de l'adorer.
Personnage brutal, ça c'est un aspect moins connu du personnage, François Suard. C'est vrai qu'il était brutal au point qu'on l'a même soupçonné d'avoir fait assassiner son père, Philippe de Macédoine donc. Et même ses demi-frères, parce que Philippe avait plusieurs femmes, et même ses demi-frères qui pouvaient lui faire de l'ombre ou même carrément revendiquer le trône de Macédoine.
Alors, il n'est pas certain qu'il ait fait tuer son père, mais le contraire n'est pas rigoureusement prouvé non plus. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'une fois la mort de Philippe acquise, il s'est empressé de faire le ménage et d'empêcher que qui que ce soit pût lui faire de l'ombre.
Alors Philippe, son père, avait lui-même conquis, si je puis dire, la Grèce. Il en était devenu l'hégémon, c'est-à-dire le maître, en quelque sorte, de toute la Grèce. Pouvoir dont hérite son fils, Alexandre, qui achève de conquérir la Grèce, qui va faire incendier la ville de Thèbes, ce qui montre bien que c'était pas un personnage très tendre. Et puis alors qui décide, en 334, de partir à l'assaut de l'Asie. Qu'est-ce qui explique cette conquête extraordinaire qu'il va faire en moins de 10 ans?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, l'affaire est commencée déjà, du temps de son père Philippe. Déjà en 336, Parménion et un autre général sont passés en Asie et ont commencé la conquête de l'Asie mineure. Ils ont échoué d'ailleurs, pour l'essentiel. Donc, Alexandre ne fait que poursuivre la tâche de son père. Par ailleurs, je pense qu'il se perçoit effectivement comme celui qui est destiné à venger les malheurs de la Grèce et donc à laver cette humiliation qui, bien souvent et de manière continue, a été infligée aux Grecs.
Il faut rappeler entre parenthèses que les villes grecques, à l'est, qu'en Asie mineure, dans la partie orientale de l'actuelle Turquie, c'était des villes grecques qui avaient été prises par les Perses 2 siècles plus tôt, d'où un antagonisme d'ailleurs qui existe encore aujourd'hui, François Suard.
Effectivement. Et par conséquent, la tâche d'Alexandre, qui s'est proclamé hégémon de la Ligue de Corinthe, c'est-à-dire en somme son chef et son guide, apparaît comme parfaitement légitime.
Alors, il y a aussi peut-être la volonté de rassembler les Grecs. Est-ce que c'est pas d'Aristote? Il faut rappeler aussi qu'il avait un maître illustre qui était Aristote. Son père, Philippe, l'avait mis entre les mains d'Aristote. C'est pas lui qui lui aurait dit, eh bien, venge un peu les Grecs et rassemble-les derrière ce projet qui consiste à reconquérir les villes grecques d'Asie mineure?
Ce n'est pas certain. Aristote, en tout cas, lui a certainement donné le goût de la culture grecque, a confirmé ce goût de la culture grecque, de la philosophie aussi, et peut-être également des sciences naturelles. Quant à lui donner un destin politique, je crois qu'il était assez extraordinaire pour se le donner lui-même.
En tout cas, en 334, il se le donne. Il attaque l'Empire perse, qui est le plus puissant de l'époque, et dont le chef, Darius, ne prend pas du tout Alexandre au sérieux.
Pour Alexandre, écrit, je t'envoie un fouet, une balle et un sac d'or. Le fouet pour te dresser, la balle pour te permettre de jouer avec les enfants de ton âge et laisser les hommes s'occuper de leurs affaires. Le sac d'or pour tes dépenses, car on m'a dit que tu étais pauvre. Sache que j'ai plus d'or que l'or qui poudroie dans les rayons du soleil. Tu n'as donc aucun besoin de te rendre en Asie pour le voler.
Tu n'aurais pas dû me traiter d'enfant. Et si je te tue, la renommée dira que ce grand roi et capitaine fut toxi par le glaive ou le poignard d'un enfant grec.
Éphèse, Sardes, Halicarnasse, Alexandre coupe la flotte perse de tous les ports de la côte d'Asie mineure. Alexandre transforme la mer Égée en un lac grec.
C'était un extrait d'un péplum de Robert Rossen, Alexandre le Grand. Cela dit, les faits sont authentiques, en tout cas tels qu'ils ont été rapportés par les auteurs grecs. Ces cadeaux de Darius à Alexandre, ça a existé.
Les textes nous rapportent en effet ces cadeaux. Et les textes nous disent aussi qu'Alexandre s'empresse de retourner, évidemment, le sens de ces différents cadeaux et de montrer qu'ils symbolisent en réalité l'anéantissement de celui qui se prétend son adversaire.
Alors, et qui ne croyait pas du tout pouvoir être battu. L'armée perse est infiniment supérieure à l'armée grecque. Et pourtant, Alexandre va la battre une première fois sur le Granik, tout près de l'actuelle ville d'Istanbul, et ça va lui ouvrir les portes de l'Asie mineure, de villes comme Sardes, de villes comme Milet, de villes grecques, de villes anciennement grecques, où il arrive en libérateur, François Suard.
Au début, effectivement, Darius ne prend pas du tout son adversaire au sérieux, et il laisse les satrapes d'Asie mineure s'arranger et décider de la conduite à suivre. Il y a bien un général, qui d'ailleurs est un grec, c'est un Rhodien, c'est Parménion, qui leur dit qu'il faut reculer, qu'il faut pratiquer la politique de la terre brûlée. Mais comme Cassandre, ce Parménion, ce
même nom
plutôt, n'est pas écouté. Et ayant affaire à des effectifs mal commandés, avec sa phalange, qui est inspirée par la phalange thébaine, qui a été rodée sur les champs de bataille de Chéronée, par exemple.
Expliquez ce que c'est qu'une phalange, parce qu'on a dit que c'était ça qui permettait aux Grecs de l'emporter sur des Perses plus nombreux qu'eux. C'était en fait une technique, une formation de combat qui a permis à Alexandre de remporter ses victoires.
Effectivement, c'est une formation d'infanterie qui consiste en plusieurs rangs de combattants, ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité, de facilité, tout au moins, pour enfoncer cette véritable muraille de piques et de javelots.
Piques très longues, effectivement. Alors, une muraille qu'il va à nouveau opposer aux armées de Darius, qui se bat en personne, lui-même. Darius n'était pas sur le Granik, mais il va se battre en personne dans la plus importante des batailles livrées par Alexandre aux Perses, et qui est la bataille d'Issos. On écoute un autre extrait du film de Robert Rossen, Alexandre, joué dans ce film par Richard Burton.
Aujourd'hui, c'est la bataille finale. Aujourd'hui, la Grèce sera vengée et l'Asie entière nous appartiendra. Ses richesses seront entre nos mains et nos épreuves seront terminées. L'ennemi nous est supérieur en tout, mais l'armée macédonienne est telle que même si moi, Alexandre, je devais tomber en combattant, vous n'auriez perdu qu'un seul homme. Et l'armée perse est telle que si sa tête était tranchée, le reste du corps périrait avec elle. Par conséquent, Macédoniens, quand nous chargerons, n'ayez qu'une seule pensée. Tuer Darius. Tuer Darius.
La bataille d'Issos, donc toujours un extrait de ce film, qui se trouve à la frontière, Issos qui se trouve à la frontière à peu près de la Turquie et de la Syrie actuellement, qui ouvre à Alexandre les portes de tout l'Empire perse, François Suard.
Alors l'une des représentations les plus stimulantes de cette bataille, c'est cette mosaïque qu'on trouve à l'heure actuelle au musée de Naples, et qui est établie d'après une peinture relativement ancienne, elle date de la fin du IVe siècle, représente d'un côté un jeune homme qui est visiblement emporté par la fougue du combat, les cheveux hérissés, c'est Alexandre, et de l'autre monté sur son char couvert d'une sorte de voile, son adversaire, c'est-à-dire le Perse Darius. Et évidemment, Alexandre est en train de remporter la victoire, c'est le dieu de la guerre.
Et Darius s'enfuit, ça a dû évidemment ruiner son prestige auprès des Perses, et alors au lieu de le poursuivre, Alexandre va d'abord passer en Égypte. Il va passer un hiver en Égypte, et là il se passe des choses extraordinaires. D'abord il va fonder la ville d'Alexandrie, il va descendre le Nil jusqu'à Memphis, il va se comporter littéralement en pharaon, et puis surtout, il va tout près de l'actuelle frontière libyenne, dans l'oasis de Siwa, pour célébrer le culte d'Amon. C'est ça, François Suard?
C'est cela. Alors, il va réaliser ici, d'une manière qui va être ensuite diffusée, orchestrée, en particulier d'ailleurs par Callisthène, il va réaliser ce qui déjà court comme rumeur, à savoir que Alexandre n'est pas véritablement le fils de Philippe, mais qu'il est le fils d'un dieu, Zeus. Et là, il trouve un sanctuaire de Zeus, Zeus Amon en Égypte, et il reçoit du prêtre la révélation que Zeus est effectivement son père.
C'est un homme de communication, on dirait aujourd'hui, Alexandre. Il sait parfaitement faire de la propagande.
Et il est entouré de personnages efficaces, en particulier ce Callisthène, qui est le neveu d'Aristote, du reste, et qui l'accompagnera longtemps et qui, malheureusement, périra victime de la cruauté d'Alexandre en 327.
Il y a un épisode dans le même genre dont on n'a pas parlé, mais c'est quand il, après avoir pris les villes d'Asie mineure, quand il arrive à Gordion et il tranche le fameux nœud gordien.
Alors c'est là aussi un élément de la légende, de l'orchestration de la destinée, un signe, celui, disait-on, qui tranchera ce nœud qui joint le joug et le timon sera le maître du monde. Alors Alexandre, bien entendu, ne peut faire moins que de tenter l'épreuve, et pour simplifier les choses, il prend son épée et tranche ce nœud.
Alors François Suard, après Gordion, après l'Égypte, il franchit à nouveau l'Euphrate, remporte une dernière bataille contre l'armée perse de Darius à Gaugamel, et alors là, brusquement, tout s'ouvre devant lui. Il prend Babylone, il prend Persépolis, il prend Suse, qui étaient des villes qui étaient extrêmement riches. Vous dites dans votre livre qu'il a trouvé de l'or dans des quantités absolument impressionnantes, des tonnes d'or.
Alors, ce qui transformait complètement, bien entendu, sa situation, d'une sorte de conquérant affamé, manquant de moyens, il se trouve désormais un souverain disposant de ressources extraordinaires qui lui permettent soit de s'établir de manière puissante sur les terres qu'il a conquises, soit de poursuivre la conquête, ce qu'il va faire.
Et il trouve une administration qu'il laisse en place. Il garde les satrapes, les gouverneurs de Darius, il les garde auprès de lui, en fait. Il respecte tout à fait et la religion et l'administration et les hommes de Darius qui est toujours en fuite.
C'est un des éléments de sa renommée, assurément, que d'avoir, dans toute la mesure du possible, et ne nous faisons pas d'illusions, dans la mesure où ça l'arrangeait, garder les cadres et garder aussi les éléments religieux. Il n'hésite pas à sacrifier aux dieux du pays qu'il traverse, aux dieux révérés par les Perses.
Si bien qu'un certain nombre de satrapes se rallient à lui ou tentent de se rallier à lui, dont ceux qui vont tuer leur propre roi en fuite, Darius. Darius dont Alexandre apprend la mort en 330.
A-t-il parlé?
Il a prononcé quelques mots que j'ai mal compris. Il a parlé de destin, de sort. Il m'a donné ceci pour te le remettre.
Mon fils, Alexandre, contemple à présent ce que je fus et ce que je suis, seul, sans personne auprès de moi pour me fermer les yeux. Que les Macédoniens et les Perses prennent le deuil pour moi. Prends ma fille Roxane pour épouse, afin que le sang de Darius et de Philippe se mélange en elle, et que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Entre tes mains, je remets mon esprit.
Alors ça, c'est la mort de Darius, 330 avant Jésus-Christ, et un Alexandre qui va épouser Roxane et va même marier ses soldats avec des femmes perses. Là, le projet d'Alexandre n'est plus le même, il s'agit au fond de confondre ou de rassembler, de réunir l'Orient et l'Occident, François Suard.
Il a eu effectivement ce dessein et il l'a en partie réalisé. Dès la première victoire sur Darius, lorsque celui-ci propose des conditions de paix, il se présente comme le seul roi légitime de l'Asie. Et il se définit comme celui qui va aller jusqu'aux limites extrêmes de ce pouvoir perse, ce qui l'entraînera tout à l'heure vers l'Inde. Oui. Tout au moins vers l'ouest.
Oui, il y va en fait parce qu'il veut venger Darius, son ennemi est mort, il le prend en quelque sorte, d'abord il prend sa couronne tout simplement, et il va le venger des satrapes qui l'ont tué, dont le satrape de Bactriane, l'actuel Afghanistan, et c'est ça qui va le conduire très loin, d'abord en Afghanistan, en Asie centrale, il va fonder des villes, dont l'une s'appelait Alexandrie Arakosi, et des Alexandries comme ça, il y en a eu 70 je crois.
Le caractère extraordinaire de fondateur de ville est un des aspects marquants dans Alexandre aussi. Beaucoup de ces fondations probablement sont mythiques ou si elles ont eu lieu ne représentent que des confirmations de postes qui existaient. Mais il y a eu effectivement de nombreuses fondations de villes et il a incontestablement souhaité unir dans un seul empire au nom d'un État. Et c'est aussi une originalité d'Alexandre. Ce n'est pas seulement une sorte d'ambitieux dévoré par le désir du pouvoir. C'est quelqu'un qui a le sens de l'État.
Et il va le construire jusqu'aux confins quand même du monde connu à l'époque, jusqu'au pied de l'Himalaya. Il se bat près de Samarcande, il se bat jusqu'au Pakistan. L'Indus, c'est l'actuel Pakistan. Il visait quoi? Il voulait aller jusqu'en Inde?
Il veut d'abord retrouver les limites de l'empire qui avait été tracé par son prédécesseur, par Cyrus, plusieurs centaines d'années auparavant. Et il veut étendre même cet empire. Il est l'héritier légitime de la Perse. Il doit donc absolument posséder toutes les conquêtes qui ont été bien souvent laminées déjà, et il veut également les étendre. Donc aller plus à l'ouest.
Alors il va donc jusqu'à l'Inde pratiquement. Là, il fait demi-tour. Pourquoi est-ce que brusquement il s'arrête dans ses conquêtes? Pourquoi est-ce qu'il fait demi-tour?
Il y est contraint et forcé. Ses soldats en ont assez. Et le contraignent...
Ils sont à 4000 km de chez eux, il faut le rappeler. C'est
quand même minimum.
Plus de 4000 km.
Et le contraignent véritablement à s'arrêter. Il essaie de les convaincre de poursuivre. Et c'est parce qu'il n'a plus personne derrière lui qu'il va descendre vers le sud et ensuite remonter vers l'ouest.
Oh, il va tous les faire assassiner. Hein, Parménion va être assassiné, Philotas. Et puis même un de ses plus proches compagnons, Clitus, donc assassiné par Alexandre en 328. Parce qu'il osait critiquer Alexandre en public.
Tu as écarté tous ceux qui t'avaient servi avec dévouement, même ton père. Il n'y a pas un être en vie qui pourrait ternir ma gloire. Il y a des morts qui y jettent une ombre. Philippe, Attale, Parménion. Ces mots ont un accent de trahison. Ils ont un accent de vérité. Que tous ceux qui viennent se prosterner, ramper devant les plis de ta tunique perse devant ton trône, qui admettent que tu renies ton père et que tu veuilles te faire passer pour le rejeton d'un dieu, viennent.
Clitus est mort. Et je l'ai tué.
Nous ferons demi-tour. Macédonien.
Moi, Ptolémée, compagnon d'Alexandre, et plus tard pharaon d'Égypte, fus témoin du terrible retour de l'Inde jusqu'à Babylone.
Alors ce retour, c'est en 325 avant Jésus-Christ, François Suard, et ça a été terrible, hein, ça a été la pire des épreuves, je crois, pour Alexandre et pour son armée, le long notamment de l'océan Indien, là, l'armée d'Alexandre est littéralement morte de faim.
Elle traverse effectivement des déserts, il y a trois colonnes, et c'est celle d'Alexandre qui traverse donc le désert de Gédrosie qu'il souffre le plus, et c'est là qu'apparaissent les éléments constitutifs de la légende d'Alexandre. Il meurt de soif, un soldat réussit à remplir son casque d'eau, il le lui apporte, et Alexandre, au lieu de boire, verse par terre le casque parce qu'il n'y en a pas assez pour ses soldats.
Et il arrive malgré tout à Babylone, là il reconstitue son empire parce que pendant son absence, quand il était en Bactriane ou en Inde, évidemment tout le monde a voulu se saisir de son pouvoir à Babylone, sans parler bien sûr de la Grèce où il était contesté. Et d'ailleurs, en fait il est très fragile cet empire, il est fascinant mais il est fragile. Il meurt à 33 ans, il meurt en 323 avant Jésus-Christ, en juin 323, et aussitôt son empire se disloque, François Suard.
Se posent immédiatement des problèmes de succession. Lequel de ces généraux éventuellement va prendre le pouvoir? Personne n'accepte, bien entendu.
On lui demande à qui veux-tu donner le pouvoir et dit au plus fort.
Au plus fort ou au plus
digne.
Il est vraisemblable naturellement qu'il n'a rien dit du tout, parce qu'il semble qu'il ait succombé à une sorte de crise de malaria et qu'il ait été aphasique. Mais comme chacun sait, les personnages les plus faciles à faire parler sont les morts.
Alors cela dit, il laisse non pas un empire, mais plusieurs empires. Il faut rappeler quand même que la Grèce va être gouvernée jusqu'à Cléopâtre par les descendants d'un de ses généraux, Ptolémée. Même chose pour l'Empire perse.
En effet, et c'est peut-être en Égypte, justement, avec Ptolémée, que la succession et la gloire d'Alexandre sera le mieux manifestée. C'est là, sans doute, grâce à cette cité qu'il avait fondée, Alexandrie, qui devient une véritable capitale, à la fois politique et culturelle, non seulement que le souvenir d'Alexandre, mais que la gloire de l'hellénisme va pouvoir se développer. Et puis, il y a les Séleucides, donc, qui...
Descendants de Séleucos, un de ses généraux, oui.
Voilà, qui vont garder pendant très longtemps la souveraineté en Perse, et la Macédoine également constituera l'un de ces royaumes.
Et les restes d'Alexandre, on n'a jamais su très bien où ils se trouvaient maintenant.
Alors l'histoire des restes d'Alexandre est assez curieuse, parce qu'il est d'abord inhumé à Babylone, bien entendu, où il est mort. Ensuite, on se prépare à le conduire en Macédoine, car bien entendu, celui qui est en Macédoine souhaite pouvoir bénéficier de la gloire d'Alexandre, mais il y a une sorte de détournement de sarcophage. Et Ptolémée embarque ce sarcophage vers Memphis, puisque c'est lui qui va devenir le seul héritier légitime de cette façon d'Alexandre.
Et on ne l'a jamais retrouvé ensuite. Hein,
non, on le cherche toujours.
Eh bien, pour le retrouver, François Suard, je recommande bien sûr la biographie d'Alexandre que vous venez de publier chez Larousse, et donc signée par mon invité d'aujourd'hui, François Suard. Deux autres biographies récentes sur Alexandre sont également disponibles. Alexandre le Grand de Claude Meusset, publié chez Payot, et puis Alexandre le Grand de Maurice Desmond, paru chez Édito Georges Naef. Et à ne pas oublier non plus les quatre volumes d'un livre de référence que nous utilisons beaucoup dans cette émission, édité chez Larousse, Ils ont fait l'histoire du monde. Quatre volumes dans lesquels on retrouve bien entendu un chapitre consacré à Alexandre. Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre le Grand de Robert Rossen avec Richard Burton, distribué par Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation, Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.